Chapitre 5. Slalomant entre les branches mortes, Chasseur continua à ouvrir la marche sur un terrain semé de petits cours d'eau et de mares. Les rayons du soleil perçant difficilement la frondaison, le sol, entre les arbres serrés les uns contre les autres, était relativement vierge de végétation. Sur ces pistes naturelles, la progression se révéla facile. En revanche, à proximité de l'eau, les pierres couvertes de mousse devenaient dangereusement glissantes. Et par endroits, de grands troncs pourris abattus composaient des sortes de marches géantes qu'il fallait gravir pour continuer à avancer sur le versant de plus en plus escarpé des collines. Dans les défilés, les murailles de pierre de chaque côté semblaient vouloir piéger les voyageuses comme des mâchoires prêtes à se refermer sur elles. Le reste du temps, le petit groupe progressait sur d'étroits sentiers flanqués par une jungle d'arbres et de broussailles. Dès qu'il le pouvait, Chasseur suivait le lit du cours d'eau principal. Très régulièrement, des bosquets bien trop denses ou des murailles rocheuses forçaient les voyageuses à de grands détours. En traversant et retraversant plusieurs fois le cours d'eau, elles parvenaient à s'épargner de périlleuses escalades. Sur des sortes de terrasses naturelles, elles durent négocier des marécages certes petits mais prodigues en pièges et en obstacles. Cela dit, tout valait mieux que tenter de se frayer un chemin dans l'épaisse forêt. Même s'il n'avait rien d'idéal, le chemin choisi par Chasseur pour avancer dans ce qui était désormais les contreforts des montagnes s'avéra assez dégagé pour que le voyage ne soit pas cauchemardesque. Dans les terres noires, en pleine nature, il existait très peu de pistes et pratiquement aucune route. Bien qu'elle ait souvent dû lutter contre des environnements plus hostiles et sans jamais perdre la bataille, Callan trouva très agréable que Chasseur s'efforce de leur faciliter la tâche. Quand il s'agissait de traverser le cours d'eau, son ami à quatre pattes sautait de rocher en rocher avec la grâce nonchalante d'un chat. Très souvent, il aurait pu se faufiler entre les broussailles, parfaitement adaptées à sa taille, mais il s'en tint aux itinéraires qui convenaient à ses compagnes. Cela dit, passer de rocher mouillé en rocher mouillé pour traverser un ruisseau n'était pas toujours facile. En plusieurs occasions, les cinq voyageuses se tinrent par la main pour former une chaîne humaine. De temps en temps, des cris retentissaient dans la forêt environnante. Plusieurs fois, Callan reconnut des croassements de corbeaux. En revanche, elle préféra ne pas s'apesantir sur l'origine de grognements encore plus sinistres et beaucoup plus proches. Semblant ne pas entendre, en tout cas la plupart du temps, Chasseur tournait très rarement la tête en direction de ces bruits, et quand il le faisait, c'était plus par curiosité que par angoisse. Chaque fois qu'il devait attendre les cinq femmes, il s'asseyait sur son arrière-train et entreprenait de faire placidement sa toilette. Dans cette forêt, il était chez lui et rien ne l'inquiétait ni le déconcertait. Ses compagnes n'auraient pas pu en dire autant. Callan supposa que le félin aurait pu bondir dans les broussailles en une fraction de seconde en cas de danger. Cela dit, il était lui-même un prédateur, avec des griffes, des crocs impressionnants et tous les muscles requis pour s'en servir. Si elle ne l'avait jamais vu chasser ou se battre, elle devinait, à voir sa tranquille confiance, qu'il devait être aussi redoutable que sa mère. Un protecteur féroce, en somme. Quand il fit trop noir pour y voir assez et négocier les difficultés du terrain, Nietzsche invoqua une petite flamme qu'elle envoya léviter à mi-distance entre Chasseur et les cinq femmes. Sans beaucoup briller, cette lumière suffit à éclairer le chemin des voyageuses. Intrigué, Chasseur l'étudia un court instant, puis, l'estimant inoffensive, il continua son chemin. Avec l'altitude, le sol devint rocheux. Par moments, il fallut traverser des champs de flèches de pierre qui donnèrent aux cinq femmes l'impression d'avancer au milieu de racines affleurantes ratatinées. Perché sur un rocher, Chasseur marquait parfois une pause pour observer la progression pénible des voyageuses essoufflées par la difficulté de l'ascension. Dès qu'elles le rattrapaient, il repartait. Une façon de leur faire comprendre qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Malgré leur fatigue, les cinq femmes ne se plaignirent jamais et aucune ne demanda à se reposer. Plus elles montèrent et plus la forêt resserra son étau sur elles, leur donnant parfois le sentiment de s'enfoncer dans un étroit tunnel végétal où elles continuaient de longer le lit du ruisseau qui servait visiblement de fil rouge à leur guide. Alors que Chasseur, loin devant, apparaissait seulement par instant, un homme sortit soudain des arbres d'un pas titubant. Arrachées à leurs pensées plus ou moins maussades, les cinq femmes se préparèrent au pire. Torse nu, vêtu d'un pantalon en lambeaux, l'homme avait le torse couvert de sang. Au début, il parut tout aussi désorienté que les voyageuses, mais bien qu'il fût à l'évidence grièvement blessé et dans un état de grande confusion mentale, de la haine brilla très vite dans ses yeux. Son apparence, son comportement et la cordelette d'os et de dents qui tenait la touffe de cheveux dressée sur son crâne, sinon rasé, identifiaient un demi-humain. Et comme tous ses semblables, la soif de sang le poussait aux confins de la folie. Sans crier gare, il bondit sur Callan. L'épée de vérité jaillit de son fourreau, faisant retentir sa note métallique reconnaissable entre toutes. Saisissant au vol le toupet du demi-humain, Lorin le força à incliner la tête, puis lui trancha la gorge d'un geste sec et précis. Alors que l'épée se levait pour le frapper, le demi-humain, les mains plaquées sur le cou, tomba à genoux devant l'inquisitrice. La fureur de l'arme monta en Callan, exigeant qu'elle abreuve la lame de sang. Mais l'intervention de Lorin avait suffi et le demi-humain ne représentait plus une menace. Callan le regarda basculer en avant, les jambes sur la berge du ruisseau et le torse dans l'eau peu profonde. Des bulles de sang bouillonnèrent dans la plaie, puis furent emportées par l'onde, la colorant de rouge.
« Mère inquisitrice !» fit Lorin dépitée. « Désolée de ne pas avoir été plus rapide !»
D'un coup de poignet, elle fit voler dans sa paume la gielle accrochée à une chaîne.
Mais sans le lien avec le seigneur Rall, cette arme ne fonctionne pas. J'ai dû utiliser un couteau et c'est plus lent.
C'était assez rapide pour me sauver et c'est tout ce qui compte. Tenant son épée à deux mains, Callan sonda la forêt, guettant les prochains attaquants. De plus, quand on ignore quel pouvoir a éventuellement un demi-humain, une lame est la seule chose efficace dans tous les cas. Couteau au poing, les trois morts de Sith vinrent se placer dos à dos avec Callan.
« Tu sens quelque chose, Nietzsche ?»
La magicienne sonda la forêt.
« Non, mais ça ne veut rien dire. Parfois, les demi-humains recourent à leurs pouvoirs occultes pour se dissimuler. »
En général, pensa Callan, ces monstres attaquaient en criant, et elle n'entendait pas un son autour d'elle. Revenu sur ses pas, Chasseur se percha sur un rocher et regarda le mort en bâillant.
« Il ne semblait pas très lucide, ce demi-humain, » dit Callan.
« C'est peut-être un traînard, » avança Cassia.
« Depuis que la barrière qui séparait le troisième royaume du reste du monde est ouverte, les demi-humains rôdent partout. Certains doivent errer dans les forêts des terres noires. »«
C'est possible. Mais nous sommes vraiment très loin de tout. Il peut aussi y avoir d'autres ennemis qui accompagnaient celui-là. »
Cassia fit signe aux deux autres morts de Sith. En silence, toutes les trois se déployèrent pour aller inspecter les environs. Debout sur un rocher, Nietzsche pivotait sur elle-même pour sonder le terrain. Les morts de Sith revinrent très vite.
« Rien à signaler !»
annonça Val. Ses deux collègues hochèrent la tête, indiquant qu'elles n'avaient rien vu non plus. Voyant Chasseur repartir, l'air serein, Callan et Nietzsche se regardèrent.
« S'il y avait d'autres demi-humains, il les sentirait, non ?»«
Espérons, » murmura Callan.
Elle reprit l'ascension, mais sans rengainer son épée.